comme un service marchand, de prendre en compte la dimension de l'interaction sans la réduire a priori à l'expression de la transaction. Pour étudier la relation de crédit, autant il me semble indispensable de disposer d'une typologie des transactions, je pense notamment à la contribution de Corbusier en juin dernier, autant en ce qui concerne les interactions proprement dites, d'une part, elles me semblent constituer un matériau où les enjeux sociaux de la transaction s'expriment et se déploient, et de, ça me semble intéressant de prendre au sérieux ces enjeux sans les réduire a priori, soit à des coûts de transaction, soit à des technologies relationnelles. En outre, bien que l'on ne soit pas ici dans le domaine du crédit de face à face, j'ai fait référence là au texte de Martin Montage et de la Ferté et de Jean-Louis Montage de la même manière, il ne paraît pas certain a priori que l'inscription de la relation de crise dans le cadre institutionnel des relations bancaires est supprimée plus importante au face à face. Et donc, il me semble préférable, plutôt que de présupposer que le face-à-face n'est plus important à partir du moment où on se situe dans le territoire de l'économie marchande, d'étudier comment l'entreprise elle-même articule le face-à-face et la transaction. Bon. Donc, je viens maintenant à cette question de l'articulation entre relations de crédit et relations bancaires, que j'avais un peu esquissé dans le papier que Alors, quand on essaie de répondre à la question des effets historiques de la bancarisation des ménages sur la relation de crédit, on se trouve d'abord face à la nécessité de préciser la place du crédit dans les services et produits bancaires et dans les relations bancaires en général. Et pour faire cela, on doit, à mon avis, relever deux points. Premièrement, une évolution historique récente qui relève à la fois de l'économie, de la sociologie du marché, et à mon avis aussi de la sociologie des professions. Depuis 2 à 3 décennies, donc les banques, dont on va compter de concurrence et de dérégulation de l'accès au marché financier, ont multiplié et diversifié les services fournis aux clients. Donc le crédit au sens étroit du terme, les prêts, n'est plus que l'un des marchés sur lesquels les banques interviennent, et il faudrait rajouter donc une série de produits différents. D'autre part, les banques, en particulier dans les années 1990-2000, ont de plus en plus tendance à présenter leur activité comme un ensemble de services de gestion de l'argent fournis par des conseillers. Plusieurs études sociologiques ont relevé cette évolution en y voyant avant tout une évolution de la nature de l'activité des banques. Alors, ceci, à mon avis, est un aspect de la question, mais il me semble qu'il s'agit en même temps d'une stratégie de légitimation professionnelle, c'est-à-dire une stratégie tentative de centrer les relations bancaires sur une affaire de connaissance, sur une asymétrie de connaissance, réelle ou supposée, variable, entre clients et conseillers commerciaux. Alors, le deuxième point, une fois qu'on a rappelé cette évolution historique récente, c'est que si l'on examine les services et produits fournis par les banques, on rencontre donc la difficulté à déterminer ce qui, dans ces services et dans ces produits, relève de la relation de crédit et ce n'en relève pas. C'est la question, donc, si on veut, de l'extension du concept de relation de crédit. Qu'est-ce qu'on met là-dessous? Qu'est-ce qu'on ne met pas là-dessous? Alors, d'un côté, il y a la manière dont les banques présentent les choses aujourd'hui. Le crédit apparaissant comme l'un des services, un produit parmi d'autres. C'est ce qu'on dit en particulier un jeune recruté dans la banque que j'ai étudié. Il faut considérer le crédit comme un produit parmi les autres produits. Il faut le vendre comme on vend les autres produits. D'un autre côté, au-delà des crédits au sens étroit du terme, on est prêt, on peut dire que la forme de la comptabilité bancaire elle-même est dans le régime de la relation de crédit. Puisque par définition, le compte bancaire est un mode de comptabilité qui consiste à mettre ensemble des créances et des dettes. Ouvrir un compte avec des moyens de paiement, même sans demander un prêt, consiste, de ce point de vue, à entrer dans un régime de débit et de crédit avec la banque. Plus spécifiquement, la question de la place du crédit dans les relations bancaires concerne le découvert. Le découvert n'est pas défini comme un crédit, et en même temps, il est défini comme un crédit. Enfin, il est défini de façon très ambiguë, disons, comme un crédit non autorisé, mais pour lequel une autorisation est négociable. Alors, on a vu, quand on a dit ça, à deux questions qui me semblent fondamentales pour essayer de comprendre ce que c'est aujourd'hui la relation avec Crédit. Première question, comment le découvert est-il défini, présenté par les banques, articulé à la notion de crédit et vécu par les clients? Et il y a sur cette question de plus en plus de travaux aujourd'hui, travaux notamment sur la question de l'exclusion bancaire. Deuxième question, comment le rapport aux comptes est-il vécu, en particulier le régime du rapport aux comptes, le régime crédit-débit, est-il explicite et est-il vécu comme tel dans les relations bancaires? Question qui me semble un peu moins traitée à ce jour. Alors, on peut poser donc une troisième question qui synthétiserait les enjeux des deux précédentes. Comment, dans les politiques des banques, dans les pratiques professionnelles et dans les significations du crédit vécues par les clients, les divers aspects qui relèvent au sens étroit et au sens large de la relation de crédit sont-ils articulés? Alors, donc je vais essayer de donner des éléments de réponse à ces questions en parlant à la fois donc de la gestion du découvert et puis du rapport au compte et du rapport à l'institution bancaire. Alors, en ce qui concerne, donc dans un premier temps, les politiques des banques dans la gestion du découvert, je vais me référer aux travaux de Georges Bloukov-Josoff, où il distingue deux politiques principales. L'une fondée sur l'idée d'autonomie du client, les banques, certaines banques qui considèrent que si un client est dans la panade, comme le disait Manège tout à l'heure, eh bien, c'est qui est lui-même. L'autre politique qui serait donc fondée sur, une sorte de paternalisme qui s'efforce d'agir sur le comportement des clients concernés, de les mettre en garde, voire, de faire de la pédagogie. On pourrait discuter du terme. Alors, ce paternalisme, toujours selon la même étude, correspondrait plutôt aux banques mutualistes, alors que la politique fondée sur l'idée d'autonomie du client correspondrait plutôt aux banques commerciales. Alors, il me semble que, d'un point de vue global, cette distinction est utile. Cependant, je vais essayer, à partir des données que j'ai recueillies, d'apporter un certain nombre de précisions qui me semblent importantes. Alors, d'abord, une précision sur la caractère un peu problématique de la distinction entre banques mutualistes et banques commerciales, dans la mesure où les établissements mutualistes sont en même temps souvent aujourd'hui plantés dans des politiques des formes d'organisation commerciale, même si ils utilisent l'argument mutualiste, éventuellement comme démonstration d'un écart au marché, ou d'un écart à la logique marchande. Là, je reprends une notion de l'ancien quartier qu'on pourrait peut-être appliquer aussi d'ailleurs à l'idéologie du service public, si nous en parlons tout à l'heure, dans une autre version de l'écart au marché. Alors, dans la banque mutualiste l'enquête, les professionnels disent d'eux-mêmes, en l'absence des clients, que avoir des clients dans le compte des éditeurs, c'est intéressant pour la banque, en particulier parce que ces clients, souvent, ne sont pas en position d'occuper les produits et les services qu'on veut leur offrir. Donc, si on parle de paternalisme, il faut préciser ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il s'agit d'une morale collective stabilisée. Le jugement, et d'autre part, le jugement moral sur les éditeurs, s'il existe, est peut-être avant tout une mise en scène morale variable dans l'interaction avec les clients. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les banquiers ne croient pas à cette mise en scène, et ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle n'a pas d'effet sur les clients. Alors, mais même s'il y a un soubassement juridique ce jugement moral, les banques ont la responsabilité de signer une situation de l'endettement à long défaut, il existe de grandes différences dans la mise en œuvre de ce rôle. Le choix de la mise en scène qui accompagne le découvert varie assez fortement d'un professionnel à l'autre et selon le client. Ces variations ne sont pas purement individuelles, mais il me semble qu'elles reflètent également la représentation collective de la clientèle locale de telle agence donnée chez les professionnels. Il existe dans les représentations des professionnels une hiérarchie des clientèles. Une hiérarchie des clientèles locales, c'est une sorte de sociologie profane, très édifiante, considère des clients typiques, mais il y a des effets sur l'attitude par rapport aux découvertes si bien que le client est également doté en ressources socio-économiques, ne rencontre vraiment pas forcément la même attitude face aux découvertes selon l'agence ou son domicile. Alors, si on compare globalement les deux agences que j'ai étudiées, on est tenté de dire que les mises en scène morales des découvertes sont plus souvent réservées aux pauvres. Alors que pour les riches, le découvert est envisagé plus ou moins explicitement, plus ou moins tacitement, comme un crédit pour les deux parties. Hein? Tout se passe finalement comme si la coloration morale du découvert était une représentation collective qui servait de toile de fond dans l'agence que j'ai observée en Seine-Saint-Denis. Hein, par exemple, lorsque on voit que certains salariés qui travaillent au guichet adoptent une expression de réprobation dès qu'ils voient le solde négatif sur l'ordinateur, en fait, lorsque le client arrive au guichet. Donc, coloration morale de découverte. Mais il faudrait ajouter quand même des nuances importantes qui sont liées aux attitudes des professionnels dans le huis clos des bureaux et qui sont des attitudes plus variables, qui transparaissent d'ailleurs parfois la trajectoire sociale des salariés. Hein, par exemple, c'était l'exemple d'un renouvellement d'autorisation de découverte où la conseillère commerciale, qui est elle-même née, qui a elle-même été socialisée dans le conseil de Saint-Denis, ne fait aucune difficulté pour renouveler un découvert, mais la finance se justifie quand même dans l'observation vis-à-vis de l'observateur, moi-même en l'occurrence. Alors, dans l'agence que j'ai observée dans l'ouest de la ville de Paris, sauf exception, les autorisations de découvert sont accordées de manière routinière, quasiment comme un crédit. Mais il y a des exceptions, là encore, et j'en citerai une. Alors, c'est l'exemple de l'interaction du numéro 39, donc l'une des deux que je vous ai distribuées, où on voit une conseillère commerciale qui travaille dans une agence, donc une agence de l'Ouest de Paris, et qui se retrouve, comme vous êtes prévu, face à un client qui est totalement en décalage par rapport à l'image de la compétence de cette agence. Et la conseillère commerciale n'a pas l'habitude d'exercer la relation moralisante pour le professionnel. Par ailleurs, elle ressent une certaine empathie avec le client. Et de ce fait, elle, tout en ayant l'idée qu'elle devrait être construite, elle accède sans négociation, sans résistance à sa demande sur le plan de l'autorisation des couverts. Alors, maintenant, si je reviens à la deuxième question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire celle non plus de la gestion de découvert, mais du rapport à la comptabilité bancaire, l'enquête que j'ai faite m'a permis de relever plusieurs formes d'écart entre ce qui est réellement juridiquement la comptabilité bancaire et la manière dont elle est vécue par les individus. Alors, comment se manifestent ces écarts? Il y a plusieurs thèmes qui reviennent. Par exemple, le thème de la propriété de l'argent. Il revient fréquemment dans l'exprimé du rapport subjectif au compte bancaire, tel qu'on peut l'observer dans les interactions. C'est-à-dire que, par exemple, en réaction aux incitations du conseiller commercial à placer leur argent, les clients réaffirment que l'argent déposé sur leur compte est bien leur argent, donc celui de la banque. D'autres clients désignent à l'inverse leur compte bancaire comme un lieu de dépôt à l'abri du contrôle de l'État. Par exemple, je pense à une dame qui dit à une conseillère commerciale de la caisse noire. D'autres clients sont utilisés à l'abri par plusieurs banques pour ne pas être pris entre guillemets dans une relation à une seule banque. Et les allusions aux autres établissements au cours des rendez-vous sont très fréquentes. Et elles semblent jouer un rôle
particulier. Dans l'Ouest
Surtout dans l'Ouest. Oui, on n'est pas seulement. Mais particulièrement dans l'Ouest. Particulièrement. Alors, d'autres choses qu'on peut observer, certains clients semblent vivre le fait d'ouvrir un compte, ou encore de souscrire un portefeuille, un paquet, un service lié au compte, comme une sorte d'engagement de soi-même dans une institution, ils sont assez réticents, hein, ils ont l'air d'hésiter. Alors, enfin, dans les interactions qui sont centrées sur les découvertes, Donc, on peut voir plusieurs types d'écarts de résistance à la norme de la comptabilité bancaire. Par exemple, il y a des clients qui refusent toute légitimité à la mise en scène morale des conseillers commerciaux et qui demeurent silencieux. Il y a des clients qui demeurent dans un rapport totalement narratif de dépenses, narratif et pas comptable. Il y a des clients qui raisonnent en termes d'unité domestique de la famille et qui refusent la norme de la comptabilité individuelle. Il y a des clients qui semblent ne pas parvenir à penser les découvertes comme une grandeur négative.